place au Journal des Amériques et d'Haïti, présenté aujourd'hui par Thomas Schnell. Thomas, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Haïti et des Amériques. À la une, la course à la Maison Blanche, top départ pour l'investiture démocrate. Les potentiels adversaires de Donald Trump se retrouvent ce soir pour la deuxième partie du débat télévisé. La concurrence est rude, plus de 20 candidats se sont déclarés. À la une également, comment sauver l'accord de paix en Colombie? Le président Iván Duque était en France la semaine dernière pour évoquer le pacte passé en 2016 avec la guérilla des FARC. Après un démarrage en fanfare, le processus marque à présent le pas. C'est notre dossier des Amériques. À suivre, la revue de presse. On s'intéressera à la crise entre le Canada et la Chine après le scandale des faux certificats vétérinaires. La Chine a temporairement cessé ses importations de viande canadienne. Une affaire qui fait grand bruit au Brésil. Un militaire arrêté avec 39 kilos de cocaïne à bord d'un avion officiel de l'équipe de Jair Bolsonaro en route pour le sommet du G20. Et puis, nous serons en ligne avec Franz Duval, journaliste haïtien au quotidien Le Nouvelliste, pour évoquer la crise politique qui secoue l'île et le nouveau mandat de l'ONU pour Haïti. Mais d'abord donc, la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 est officiellement lancée avec ce premier débat hier soir en Floride, décidément terre de campagne pour la Maison Blanche. 10 prétendants débattront à nouveau ce soir sur scène. Le débat a été suivi de près par les Américains. Anne Corpet, tous se demandent qui sera le rival de Donald Trump.
C'est une belle occasion pour les gens qui ne me connaissent pas d'entendre ce que je propose pour la présidence.
Amy Klobuchar fait partie des 10 candidats démocrates qui s'affrontent à Miami pour ce premier débat. La sénatrice du Minnesota frôle les 1% d'intention de vote et a bien besoin de se faire connaître. C'est le cas aussi de Julian Castro, ministre du Logement sous Barack Obama.
Ce soir, j'espère qu'après le débat, les gens auront compris que j'ai la bonne expérience pour être président, une vision forte pour l'avenir du pays et que je peux battre Donald Trump.
La plupart des militants qui ont fait le déplacement à Miami soutiennent des candidats plus connus comme Joe Biden, l'ancien vice-président, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, ou encore Elizabeth Warren, dont la cote ne cesse de grimper. Bob votera pour elle aux primaires.
Je soutiens Elizabeth Warren parce qu'elle est très intelligente. Elle est d'une grande moralité, elle a de grandes idées pour le pays. C'est exactement la personne qu'il nous faut à la plus haute fonction de ce pays au lieu d'un président amateur de star du porno.
Mais la plupart des électeurs sont encore indécis, comme Martha, qui a invité des amis pour regarder chez elle les débats.
Ça m'intéresse d'en savoir plus sur les candidats que je ne connais pas du tout. N'importe qui sera mieux que Trump et ça m'intéresse de savoir ce qu'ils ont à dire.
Ces débats sont les premiers d'une longue série. Les démocrates qui postulent à l'investiture ont jusqu'à l'été prochain pour se départager. Anne Corpet, Miami, RFI.
14h13 à Paris, à l'écoute d'RFI. Dans un instant, le dossier Amérique consacré à la Colombie. Mais avant ça donc, la revue de presse des Amériques avec vous, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le premier round des débats des démocrates, c'est aussi à la une de la presse.
Exactement, pour le Washington Post, Elizabeth Warren est l'un des gagnants de ce débat. Et l'on a profité pour exposer d'une manière claire et efficiente ses idées progressistes. Par contre, l'ancien chouchou des médias, Beto O'Rourke, a déçu, écrit le journal. Trop vague dans ses réponses, estime le Washington Post. Pour le site d'information Politico, l'une des surprises hier soir a été le sénateur du New Jersey, Cory Booker.
Et avec 10 minutes 50 secondes, il a eu plus de temps de parole que les autres participants.
Et il en a fait bon usage, d'abord en se présentant habilement à un public plus large qui ne le connaît pas encore et en affirmant clairement ses positions, par exemple sur les armes. Si vous avez besoin d'un permis pour conduire une voiture, vous en avez aussi besoin d'un pour acheter et porter une arme, a-t-il déclaré par exemple.
En tout cas, Rim, ce débat a permis de montrer une chose. Le Parti démocrate est devenu beaucoup plus progressiste.
C'est ce qu'écrit effectivement le New York Times, que ce soit sur l'immigration, la santé, le contrôle des armes à feu ou encore la politique étrangère. Les démocrates n'hésitent plus à afficher des positions qualifiées de « liberal » en anglais, donc de progressistes, des positions qui demandent surtout bien l'intervention de l'État. « Democrats want red meat ». Les démocrates veulent de la viande rouge, résume le site d'information The Hill.
On prend la direction du Mexique où la vidéo d'une migrante haïtienne est très commentée. remonté dans la presse.
Aidez-moi, mon fils est malade, supplie cette jeune femme allongée sur le sol derrière le portail d'un centre d'hébergement pour migrants dans l'état de Chiapas, c'est dans le sud du Mexique. Selon le site d'information Infobae qui partage cette vidéo, ce témoignage alimentera encore plus les critiques contre la politique mexicaine à l'égard des migrants. Toujours d'après Infobae, une centaine de migrants africains et haïtiens ont provoqué une émeute mardi dernier afin d'alerter sur leurs conditions de vie dans ce centre d'hébergement à Tapachula. Ils demandent notamment de l'eau, des aliments ainsi que de l'aide médicale.
Et on prend la direction d'Haïti à présent, où il est 7h15. On retrouve Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste.
Et avec Franz Duval, Thomas, nous parcourons la une de son journal, à commencer par le Parlement, qui a repris ses travaux hier mercredi.
Cette ouverture des travaux, le Parlement pour mettre le budget haïtien en discussion, ça attend depuis octobre dernier. Aussi, une loi électorale qui doit permettre les prochaines élections et peut-être choisir le nouveau gouvernement qui doit diriger Haïti. Il y a eu une séance confuse mercredi à Port-au-Prince parce qu'un groupe de députés de la minorité ont exigé que l'Assemblée accepte de mettre à la prochaine séance à l'ordre du jour la mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice. C'est une nouvelle péripétie qui s'ouvre dans la crise haïtienne, d'autant que les députés qui ont imposé cette condition sont en minorité et à la Chambre des députés et au Sénat de la République, et il faudra 2/3 des membres de ces deux corps pour que le processus de mise en accusation pour haute trahison du président Jovenel Moïse puisse aboutir.
Autre sujet que vous développez, c'est les États-Unis qui souhaitent la formation d'un nouveau gouvernement en Haïti.
Après 3 échecs de présentation de sa politique générale devant le Parlement haïtien, le gouvernement de Jean-Michel Lapin est en train de passer à la trappe. Les États-Unis, qui ont envoyé plusieurs représentants du département d'État à Port-au-Prince pour discuter avec les autorités, avec les forces de l'opposition et du pouvoir, proposent depuis 3 jours qu'un nouveau gouvernement voit le jour. Pour le moment, on ne s'est pas encore arrêté pour savoir si ce sera un nouveau gouvernement conduit par le même premier ministre, mais on va changer les ministres, on va s'ouvrir à la société civile, s'ouvrir à l'opposition. On parle même de l'autre option, ce serait totalement un nouveau gouvernement avec un premier ministre, cette fois issu de l'opposition, qui pourrait conduire un gouvernement de transparence, comme l'ont appelé les présidents des deux chambres haïtiennes, du Sénat et de la Chambre des députés.
Les Américains, Franz Duval, ont aussi largement contribué à la création d'une nouvelle mission onusienne en Haïti, une mission politique adoptée mardi dernier au Conseil de sécurité à New York. L'objectif de la BINU, c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, en fait, c'est d'épauler, de conseiller les autorités haïtiennes pour une, je cite, « bonne gouvernance » et pour les aider à tenir des élections libres, justes et transparentes. Franz Duval, c'est une mission possible ou impossible?
C'est une mission difficile, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire en Haïti, parce qu'on demande à la BINU de faire ce que des années de missions de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti n'ont pas pu réussir. Les Haïtiens sont plutôt sceptiques. La dernière mission de l'ONU en Haïti, la MINUSUS, a passé 2 ans sans donner vraiment de résultats. Ça coûte très cher, ça ne sert à rien, c'est ce que dit la société civile haïtienne. Et on est plutôt sceptique à propos de cette nouvelle mission des Nations Unies.
Cette semaine en Haïti, Franz Duval, c'est la semaine des examens officiels. Comment se sont déroulées jusqu'à présent les épreuves compte tenu de la situation dans le pays?
En grande majorité, je dirais que les examens, à la surprise générale, se sont plutôt bien déroulés. Rares incidents, ça s'est arrêté, ça a repris, mais en majorité, les élèves ont pu composer. Et on doit dire que c'est toute une quinzaine d'examens officiels qui s'est ouvert cette semaine à Port-au-Prince et dans le reste du pays. Il y aura des examens d'abord de brevet, il y aura ensuite des examens pour les écoles professionnelles, ensuite il y aura le bac. C'est des centaines de milliers d'élèves qui ont passé l'année scolaire à travailler, qui essaient de finir l'année avec des examens. Des groupes politiques avaient menacé les examens, mais à la fin, tout le monde a compris qu'on devait laisser aux enfants la chance de composer en paix et la chance de finir leur année scolaire.
Et on leur souhaite évidemment bonne chance pour ces examens. Merci beaucoup, Franz Duval, et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et pour des raisons techniques, l'interview avec Franz Duval du Nouvelliste en Haïti a été enregistrée avant cette émission. La suite de la presse du continent arrive avec le Canada qui subit un nouvel embargo chinois. Alors cette fois-ci, c'est sur l'importation de viande.
Oui, motif invoqué par Pékin, Thomas, la découverte de près de 190 faux certificats d'exportation qui accompagnaient une cargaison de viande de porc d'une société canadienne. C'est à la une du journal Le Devoir, la ministre de l'Agriculture a déclaré au journal qu'un geste criminel était à l'origine de l'embargo. Les autorités ont donc lancé une enquête, pour l'instant sans résultat. Toujours selon Le Devoir, il est difficile de ne pas y voir de lien avec le différend diplomatique entre le Canada et la Chine qui dure depuis l'arrestation en décembre dernier de la dirigeante du géant de télécommunications Huawei à Vancouver.
Et pour terminer, direction le Brésil avec un nouveau scandale qui ébranle le président. Un militaire qui accompagnait Jair Bolsonaro en route vers le G20 au Japon a été arrêté pendant une escale en Espagne. Il transportait pas moins de 39 kilos de cocaïne dans sa valise.
Et cette affaire fait bien sûr la une de la presse brésilienne qui reprend d'ailleurs le titre choisi par le journal français Le Monde, Aero Coca. Le militaire était à bord d'un avion qui précédait celui du président brésilien. Jair Bolsonaro avait lui-même annoncé son arrestation. La Folha de São Paulo relève une certaine cacophonie dans les réactions et explications officielles. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une faille dans le service de sécurité. Le sergent-chef, le militaire, donc, n'en est d'ailleurs pas à son premier voyage d'accompagnement de président, note au Globo. Il a déjà été en déplacement avec la présidente Dilma Rousseff. Et d'après l'entourage de Jair Bolsonaro, le militaire ne faisait pas partie de la délégation officielle du président, mais d'une équipe de soutien au voyage présidentiel.
Merci à Rim Lipol du service international d'RFI pour la revue de presse des Amériques. C'est la troisième fois en un an que le président colombien Iván Duque vient en France. La semaine dernière, il a été reçu à l'Élysée pour évoquer l'économie, la défense, sujets sur lesquels les deux dirigeants tombent facilement d'accord. En revanche, ils sont revenus sur le processus de paix en Colombie. Véritable pierre d'achoppement pour le président Duque, élu sur la critique de l'accord de paix passé par son prédécesseur. Les textes signés avec la guérilla des FARC étaient également sur la table des discussions au Forum mondial de la paix à Caen, avec l'espoir de sauver un processus encore inachevé. C'est un dossier d'Andréina Flores.
To discuss the peace process in Colombia.
Les accords de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC ont été signés en 2016, mais ils sont loin d'être appliqués de manière efficace. Une partie des anciens combattants, représentée par l'un des guerrieros les plus importants, Iván Márquez, menace de reprendre les armes. Certains membres ont déjà formé de nouveaux groupes criminels et depuis la signature des accords, plus de 700 leaders sociaux ont été assassinés dans différentes régions du pays. Gonzalo Restrepo a été membre de la délégation du gouvernement colombien pour les négociations de paix à La Havane et au Forum mondial de la paix. Il explique les difficultés de l'application des accords.
La négociation est déjà très difficile et ça nous a pris 5 ans. Mais l'implémentation, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais il faut choisir quelles sont les choses qu'on va faire de façon prioritaire parce qu'on n'a pas les ressources pour tout. Et dans les choses prioritaires, la distribution de la terre, la sécurité des gens démobilisés et aussi proportionner les moyens aux gens qui se sont démobilisés à trouver un futur meilleur, ça serait ce que je ferais les premiers.
Vous croyez que les guerrilleros pourraient retourner aux armes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je ne crois pas pour la plupart. Je crois qu'ils sont un compromis ferme. Et Timoshenko a fait preuve de ça. Chaque fois qu'il parle, il est pour la paix. Je crois que la paix va se soutenir. Mais il faut, d'un côté et de l'autre, commencer à accomplir les accords.
Une question politique entrave aussi la mise en œuvre des accords. Les différences idéologiques entre l'ancien chef de l'État, Juan Manuel Santos, qui a signé le document, et l'actuel président, Iván Duque. Ce dernier a proposé de durcir la mise en œuvre de la justice spéciale pour la paix, colonne vertébrale des accords, qui a été conçue justement pour assouplir les condamnations des guerrilleros afin de les inciter à laisser les armes. La justice colombienne a rejeté cette demande, mais le malaise reste entier au sein du palais présidentiel, Marta Lucía Ramírez, vice-présidente colombienne de visite à Paris début juin, le confirme.
Malheureusement, il s'agit d'une négociation mal faite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui ne se sont pas éloignés du trafic de drogue, ceux qui n'ont pas tenu parole pour abandonner les armes, peuvent se payer le luxe de continuer leur vie tranquillement, comme si rien ne s'était passé.
De leur côté, les Colombiens présents au Forum de la paix critiquent sévèrement le silence du gouvernement quant à la participation des groupes économiques et politiques dans la guerre. Jenner Usuga, victime du conflit armé colombien, exilé en France depuis 10 ans.
J'étais dans la course à la candidature à la mairie de la municipalité où j'habitais, c'était dans la région du café, et je parlais haut et fort dans une région complètement contrôlé par les paramilitaires. Alors un jour, deux hommes ont attaqué ma maison à l'arme à feu pour essayer de me tuer. On a compté 25 coups de feu. Alors vous comprenez, il y a 10 ans, j'ai dû quitter mon pays. La réalité que l'on doit faire connaître aujourd'hui, c'est celle-là. Mais ça ne convient pas au gouvernement parce que ça touche des pouvoirs très haut placés. Ça touche les intérêts des dirigeants politiques et ceux des groupes économiques qui sont impliqués dans cette guerre.
Le chemin de la mise en œuvre des accords de paix est très long, mais le mot-clé, c'est le développement social. L'État doit reprendre la main dans les zones les plus affectées par le conflit, avec le soutien de la communauté internationale, pour mobiliser des programmes sociaux et obtenir des ressources. Andreina Flores, de retour des camps, Normandie, RFI.
RFI, il est 14h25 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'heure d'écouter le journal de l'Outre-mer de ce jeudi 27 juin avec vous, Benoît Ferrand, à la une. Elles sont de retour une nouvelle fois. Les bandes d'algues sargasses se rapprochent en ce moment des côtes de la Guadeloupe.
Oui, Thomas, les côtes est, sud, ouest seraient sous la menace directe d'une arrivée massive d'algues brunes, les dernières images satellites ne laissant malheureusement guère d'espoir. Éric Lefebvre.
De nombreux radeaux ont été détectés à la fois entre Saint-François et Sainte-Anne, dans le secteur est de la Grande Terre, dans le secteur sud du Moule ou encore sur les côtes de la zone Gros Cap. Des nappes moins importantes sont également présentes le long de la côte ouest de la Basse-Terre et une quantité d'algues importantes est en dérive en zone atlantique à une centaine de kilomètres de l'archipel. Des sargasses que les courants orientés vers le nord-ouest poussent vers nous, vers les îles du sud, les Saintes et Marie-Galante, vers l'île de l'Est, la Désirade et vers les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont elles aussi fortement exposées au risque d'échouage et la situation au large du delta amazonien ne laisse rien présager de bon. Les sargasses y sont présentes en masse et devraient encore nous causer bien des soucis pendant les prochaines semaines.
Rappelons que les algues brunes, c'est exactement comme les algues vertes en Bretagne. Il faut les ramasser dans les 48 heures, sinon elles pourrissent et empoisonnent dans tous les sens du terme la vie des personnes habitant à proximité. On reste en Guadeloupe avec cette idée dont nous vous parlions hier, cette idée qui serait dans l'air, le déplacement de la préfecture de la commune de Basse-Terre vers la commune des Abîmes, juste à côté de Pointe-à-Pitre, un recentrage entre guillemets administratif qui est d'ores et déjà dénoncé par certains politiques guadeloupéens. Écoutez par exemple Alain Plaisir, il est président du CIPA, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Il n'est pas d'accord avec l'idée en question, il est très clair, vous allez l'entendre, il est au micro d'Olivier Lancien.
C'est un scandale, ça veut dire qu'on veut tuer Basse-Terre. La Guadeloupe a la chance d'avoir deux pôles, un pôle économique et un pôle administratif, et ce qui permet un certain équilibre du territoire. Mais si on veut concentrer tout dans un rayon Bémaro, Pointe-à-Pitre, Abîme, à ben ce moment-là, il y aura Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémaro et le désert guadeloupéen. Donc on ne veut pas ça, on veut qu'il y ait plusieurs pôles d'activité, qui est un pôle à Marie-Galante, qui est un pôle de la Côte-sous-le-Vent, qui est un pôle de la région de Basse-Terre. Et comme ça, vous avez un territoire qui est harmonisé et ça évitera des embouteillages, ça évitera des nuisances. Et c'est ce qu'il faut faire pour la Guadeloupe. Il faut absolument maintenir le cadre administratif de Basse-Terre.
Affaire à suivre, en tout cas. Bonne fin d'après-midi. Thomas, à demain.
À demain, Benoît. Merci beaucoup pour le journal de l'Outre-mer dans la tranche Haïti et les Amériques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur RFI.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.